Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir et bienvenue sur notre plateau, chers téléspectateurs de la chaîne internationale Sahar. L'enfant est une page blanche et les acteurs de son éducation écriront sur cette page blanche, à l'encre indélébile, son idéologie à venir. Ainsi, élever un enfant au bien, à l'amour et au respect d'autrui, à l'indulgence et à la tolérance, renforcera en lui son humanisme et son caractère social. Mais que deviendra un enfant que l'on assoit au premier rang des crucifixions et des décapitations publiques? Un enfant payé pour dénoncer les infidèles ou dont le sang servira pour transfuser les terroristes blessés? Ce sont les enfants du dit État islamique, enlevés à leurs parents ou qui le rejoignent volontairement, des enfants endoctrinés à l'idéologie du groupe terroriste dans le but de soulever une armée de petits soldats qui deviendra sans doute une grande armée de soldats terroristes sur plusieurs générations. Pourquoi des enfants? Quelles sont les techniques d'embrigadement de ces enfants? Comment procède-t-on à l'endoctrinement et au lavage de cerveau de ces petits? Et que produiront-ils pour les générations à venir? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec notre invité Nadara. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau.
Bonsoir, merci à vous.
Donc tout d'abord, l'embrigadement des enfants, c'est une technique aujourd'hui employée par le groupe terroriste donc, que l'on appelle communément Daesh. Mais est-il une nouveauté en son genre? Est-ce que c'est la première fois que des enfants sont embrigadés dans des armées?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, ce n'est pas une, quelque chose de nouvel, parce que de tout le temps, toujours lorsqu'il y a des guerres, les enfants payent le prix de cette guerre. Ils sont soit des victimes, donc soit des blessés ou bien des morts, soit les victimes de cette sorte. Ils sont pris pour être enrôlés dans les rangs des soldats ou bien dans les rangs militaires. Mm-hmm. On les prend pour des soldats enfants. Et d'ailleurs, la charte de l'ONU et toutes les chartes des droits de l'homme parlent ces enfants soldats. On les voit en Afrique, par exemple, au Soudan, en Somalie, en Éthiopie. Et on les voit aujourd'hui dans notre région où Daesh a établi faussement son califat et prétend appliquer les lois de l'islam. Ils sont en train de dire, par exemple, que à l'âge de 9 ans, l'enfant il devient maître de soi et il est capable mm-hmm. de prendre les décisions pour toute sa vie. Mm-hmm. Et donc, ces enfants, lorsqu'ils sont endoctrinés par de tels terroristes, ils deviendront certainement terroristes. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une nouveauté de tout le temps. Même depuis des siècles et des siècles, toujours on usait des enfants soit comme des boucliers humains, soit comme des soldats pour compenser les pertes, parce que dans les guerres, il y a donc certainement des pertes subies par les groupes qui sont en train de s'entretuer. Mmh. Donc, ils comblent le vide ou bien les lacunes qui se trouvent à travers les enfants soldats.
Mmh. Donc, on va regarder dans le reportage les enfants du califat, entre guillemets, bien sûr, en faisant allusion aux enfants donc éduqués et embrigadés par Daesh. Mmh. C'est dans ce reportage que l'on regarde ensemble.
À Raqqa, le fief syrien de l'État islamique, y sont au premier rang lors des crucifixions et des décapitations publiques. On se sert de leur sang pour transfuser les combattants de l'État islamique blessés. On les paye pour dénoncer les infidèles ou ceux qui critiquent l'État islamique. On les forme à devenir des kamikazes. Ce sont des enfants, âgés pour certains d'à peine 6 ans, que l'État islamique transforme en soldats du futur. Pour recruter des enfants, l'État islamique a mis au point un système complet et extrêmement bien organisé qui vise à les endoctriner avec les croyances extrémistes du groupe avant de leur apprendre des techniques rudimentaires de combat.
Bien sûr que les États islamiques actuellement essaient de manipuler les cerveaux des enfants à travers les propagandes publicitaires, à travers les versets du Coran pour amener ces garçons ou ces filles, ces jeunes militants des militaires à côté de l'État islamique. C'est un vrai danger vis-à-vis des enfants, parce que manipuler un cerveau d'un enfant de 6 ans et jusqu'à 10 ans ou 11 ans, il sera un soldat, un enfant soldat. Et on a vu ça en Afrique, quand les enfants africains ils ont pris les armes contre plusieurs révolutions en Afrique, au Libéria.
Ils sont appelés l'oiseau du califat. En Irak ou en Syrie, les garçons qui, sur les lignes de front, sont enlevés par l'État islamique ou le rejoignent volontairement, sont envoyés dans divers camps d'entraînement religieux ou militaires en fonction de leur âge. Dans ces camps, tout leur est inculqué, de l'interprétation que fait l'État islamique de la charia au maniement d'une arme à feu. On leur apprend même à décapiter un autre État humain en leur donnant des poupées sur lesquelles s'exercer.
À mon avis, la manipulation d'un cerveau d'enfant est d'amener l'enfant lui-même de faire quelque chose que l'homme il ne peut pas le faire.
Oh vous les juifs, Allah nous a permis de tuer vos frères sur le sol français et ici sur la terre de l'État islamique.
Une partie de cette stratégie implique d'utiliser des enfants comme outil de propagande. En postant des photos sur les réseaux sociaux, où on en voit porter les uniformes de l'État islamique et marcher aux côtés de combattants adultes, les djihadistes se préparent à une longue guerre contre leurs opposants et espèrent que les jeunes soldats formés aujourd'hui seront toujours au front dans plusieurs années.
Voilà, on a vu l'embrigadement massif des enfants, donc une technique employée par Daesh pour embrigader des soldats, pour renforcer son armée, pour agrandir son armée. Donc il s'agit d'armées d'enfants, on peut le dire ainsi. Ce qui nous saute à l'esprit, c'est les nombres vraiment très excessifs de ces enfants que l'on voit, qu'on a vu dans la mosquée. Et donc ça nous amène à poser la question de savoir comment ces enfants sont embrigadés. Est-ce que c'est le consentement des parents? Est-ce que c'est avec quoi on les attire pour les allier à ces rangs?
Premièrement, ce n'est pas difficile d'attirer les enfants. Deuxièmement, Daesh, quand il a envahi des territoires en Irak et en Syrie, il a immédiatement établi son État avec des frontières. Mmh. Et là-bas, on trouve malheureusement, dans certaines parties de la population sunnite, dans la communauté sunnite, ils considèrent, même ici au Liban, il y a des gens sunnites qui disent que c'est le califat islamique. Mmh. Daesh est venu instaurer ce califat. Mmh. Donc, puisque la communauté sunnite, elle est en recherche de l'établissement d'un État qui prône le slogan et les normes de l'islam. Mm-hmm. Donc, quand Daesh s'est installé, il y a eu, bien sûr, un grand soutien de la part de la population qui vit dans ces régions prises par Daesh. D'ailleurs, si Daesh n'était mm-hmm. pas fort, il n'aurait pas eu la capacité de prendre le contrôle mm-hmm. de ces régions.
Donc on a vite on a prêté allégeance à ce califat sans savoir si vraiment il s'agit d'un califat qui applique réellement
les yeux fermés, ils ont prêté allégeance mm-hmm. et aujourd'hui ils sont heureux parce que il y a eu un califat islamique qui applique la charia islamique
mm-hmm. qui les représente peut-être.
Qui les représente. Donc dans ces familles qui soutiennent Daesh, qui soutiennent ce califat, certainement leurs enfants vont soutenir aussi mm-hmm. et vont vivre mm-hmm. Sous la bannière de Daesh.
Mm-hmm. Donc ils vont envoyer leurs enfants volontairement.
Volontairement. Deuxièmement, puisque Daesh a envahi de très grandes régions au début en Irak et en Syrie, ils ont enlevé un très grand nombre, des milliers d'enfants qui ont été enlevés, bien sûr, entre 8 et 15 ans. un très grand nombre, on estime ce chiffre, on l'estime à des milliers d'enfants qui ont été enlevés et pris en otage par Daesh. Ils n'ont pas été tués, et au contraire, ils ont été hébergés, ils ont été introduits à la vie militaire et on leur a fait toutes les leçons et tous les exercices militaires pour s'entraîner à prendre part au combat. Et comme vous avez signalé au début dans votre reportage et dans votre introduction, l'enfant, c'est une page blanche. Il ne connaît pas le système de valeurs, il ne connaît pas le vrai du faux, ce qui est correct, ce que
le bien du mal, voilà. Ce sont les
et donc, tout de suite, ils vont assimiler, ils vont être inculqués sur cette stratégie, sur ce système de valeurs établi par
qui est
Daesh.
Le mal, donc c'est l'ennemi. Voilà.
Le mal, c'est l'ennemi de qui? De Daesh. Donc le terrorisme pour eux, c'est le jihad. Et d'ailleurs, toute la campagne médiatique internationale est en train de jouer aussi, que ce soit volontairement ou bien sans même être conscient de ce qu'ils sont en train de faire. Le fait d'assimiler les exactions et les crimes de Daesh au jihad, c'est une sorte de propagation de l'idée de Daesh à travers le monde. Et d'ailleurs, Daesh aussi, qui est aussi fort en Europe et aux États-Unis, en Afrique, non seulement dans notre région, il est en train d'être très actif sur la toile. Il est en train de recruter des milliers de jeunes. Il y a aussi des jeunes filles qui sont venues. Est-ce que vous figurez, par exemple, qu'en Tunisie, ce pays arabe, qui, dans la plupart des cas, les familles tunisiennes sont des familles conservatrices qui envoient leurs filles ou bien qui viennent toutes seules combattre ou bien participer au combat ou bien ou même au jihad qu'on appelle le jihad sexuel. Donc ils sont en train de prêter allégeance et d'affluer de toutes parts du monde pour venir vivre sous l'ombre du califat islamique. Et ils le disent clairement. Ils le disent, nous étions à la recherche d'une vie digne, d'une vie juste. Tous les mécréants, tous les gouvernements européens n'ont pas donné justice à notre cause ou bien à notre vie en tant que musulmans vivant dans ces pays. Donc nous sommes venus ici pour défendre le droit du califat islamique à l'existence. Malheureusement, donc, ils ont de très grandes ressources en vie humaine, au niveau humain, pour recruter les enfants.
Et donc, ces jeunes filles, ces jeunes qui sont tous attirés par Daesh, en fait, cette organisation, elle joue bien sur les terminologies. Donc, en utilisant, comme vous venez de le dire, le terme de djihad, ou bien même le terme d'État islamique, le terme de charia et de tout
califat.
Ça. Donc, ça laisse apparaître aux gens qu'il s'agit vraiment de l'islam, de l'islam avec vraiment un L majuscule, quoi, que c'est vraiment le réel islam. Et donc, sans réfléchir, on va adhérer à cette organisation terroriste. Les enfants, pourquoi est-ce que on recrute des enfants? Quels sont les avantages de recruter des enfants? Donc, lorsqu'on dit un enfant, donc ça va de 6 à 7 ans, comme on vient de le voir, également, il y a également les adolescents. Donc ici, quelle est la différence et quels sont les avantages de recruter?
Premièrement, quand on recrute de petits enfants, de jeune âge, en bas âge,
peut-être que ce n'est pas directement pour la guerre.
Participer au combat, bien sûr, mais pour les endoctriner, pour les faire bien assimiler et adapter à cette doctrine, à cet esprit wahhabite. D'ailleurs, hier, je viens de regarder un reportage télévisé sur le fait que même les enfants qui vivent en Arabie Saoudite, qui sont endoctrinés aussi par l'esprit et par la doctrine wahhabite, et dans les manuels scolaires, on les apprend comment on peut décapiter et comment on peut amputer les membres d'une personne,
d'un voleur. On a vu ça s'est propagé sur Internet.
Oui, d'un voleur, par exemple, ou bien de quelqu'un qui a commis un tel ou tel péché. On est en train d'endoctriner, de les faire apprendre à des enfants de 6 ans. Donc, c'est une page blanche. Tout ce qui est assimilé est très bien acquis. Et ça vient de soi, donc, qu'ils vont l'appliquer quand ils grandiront. Quand on est adolescent, on est plus apte à devenir des soldats plus rapidement. Parce qu'on a la force physique, on a déjà la force physique nécessaire. On combat avec courage, avec bravoure. On n'a pas peur de la mort parce que même la notion de la mort, le concept de la mort n'est pas acquis et n'est pas bien assimilé par cette génération de jeunes. Donc, il profite en fait Daesh depuis qu'il a été mis en place. Il travaille comme un État qui a vraiment... planifié sur tous les domaines de la vie, même au niveau, par exemple, des instances juridiques, des instances religieuses. On le voit même travailler sur la population. Il est en train de sélectionner sa population et de l'endoctriner à l'islam wahhabite qui déforme le véritable islam, qui prétend appliquer la charia islamique du prophète Mohammed et les leçons de l'islam. Et quelle est la meilleure, quelle sera la meilleure solution ou bien la meilleure option que d'utiliser l'endoctrinement des petits-enfants qui ne peuvent pas contester, qui ne contestent rien, qui assimilent passivement tout ce qui leur est dit et qui l'appliquent très facilement quand ils grandiront.
Après la pause, on va voir quelles sont justement ces techniques d'endoctrinement des enfants. Donc on s'arrête pour quelques instants, chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques instants, restez avec nous. Bienvenue à nouveau sur notre plateau, chers téléspectateurs, avec notre invité Nadarad. On parle ce soir des enfants du califat ou des enfants recrutés par le groupe terroriste appelé État islamique, donc pour rejoindre ses rangs, pour rejoindre les rangs de ces combattants. Donc des enfants qui sont enlevés ou bien recrutés la plupart du temps en très bas âge pour justement les endoctriner, pour leur effectuer un lavage de cerveau et s'accaparer de leur esprit. Donc, comment est-ce que l'enfant est endoctriné? Comment est-ce que on procède au lavage de cerveau et à l'endoctrinement de ses enfants?
Premièrement, ça vient en étapes. Ce n'est pas, on ne donne pas tout de suite un fusil et on leur demande de tirer. Ce que les enfants aiment,
les histoires, peut-être.
Par exemple, les histoires, par exemple, les excursions dans la nature, par exemple, les fêtes, participer aux fêtes, dans
avec
les
des
écoles,
récompenses, comme on
avec
voit.
Les cadeaux qu'on leur offre, ils sont vraiment très généreux en ce sens. Puis, pourquoi? Parce qu'ils sont très puissants, même sur le plan économique, ils sont très puissants. Donc, de plus, par exemple, les écoles qui sont fermées, les écoles officielles qui sont fermées, publiques.
C'est le déni de l'éducation académique à l'enfant. Donc, il n'y a aucune autre éducation que celle de...
Donc, qu'est-ce que les enfants vont faire de par sa nature, l'enfant aime apprendre. Donc, ils apprennent soit dans une sortie hors école, soit à l'école. Et qu'est-ce qu'on leur fait apprendre dans les écoles de Daesh? Comment tuer, comment massacrer, comment amputer,
égorger.
Comment recevoir, par exemple, la bénédiction de Dieu en cherchant vraiment les normes, en les faisant apprendre toutes les normes strictes et les mesures strictes qui ne sont même pas appliquées par le prophète Mohammed lui-même. Donc, ils disent que, par exemple, c'est normal de tuer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commis un péché. Donc, ils sont en train de justifier leur meurtre. Ils sont en train d'apprendre aux enfants comment devenir de criminels potentiels dans l'avenir. Bien sûr, ils utilisent tout ce que la psychologie d'un enfant l'attire. Ils sont vraiment très expérimentés et très forts dans ce domaine aussi. Malheureusement, ils sont experts dans la matière.
Donc, ceci démontre que, comme vous l'avez dit, c'est une question qui a été planifiée des années, peut-être des dizaines d'années auparavant.
Ils procèdent comme les Juifs, d'ailleurs.
Voilà, c'est vraiment, ça a été planifié. On se demande qui est-ce qui les a également appuyés dans cette planification, qui les a donné, justement, leur a donné toutes ces ressources pour savoir comment éduquer un enfant, manipuler le cerveau d'un enfant en particulier, bien sûr, il manipule le cerveau de tous de toute façon. Les enfants ils sont utilisés à un moment donné, à un certain moment dans la guerre. Oui. Donc que ce soit dans le combat armé en tant que soldat ou dans d'autres moyens. On a vu par exemple que l'enfant pouvait servir de réserve de sang.
Par exemple.
Ou bien de bouclier humain. Donc, quelles sont ici les différentes utilisations de l'enfant sur le terrain de la guerre?
Sur le terrain de la guerre, on l'utilise comme soldat, premièrement. Ça, c'est très intéressant, c'est très important pour eux qui subissent de grandes pertes dans leur rang. D'ailleurs, le nombre des miliciens de Daesh est en train de diminuer parce que les frappes et les guerres qui sont en train de mener sur plusieurs fronts, c'est normal qu'ils vont perdre beaucoup de gens. Et deuxièmement, parce que la communauté internationale qui y est aujourd'hui avertie contre ce danger imminent sur leur territoire, ils sont en train de freiner et d'arrêter, par exemple, tous ceux qui tentent de partir en Syrie ou bien en Irak et dans les aéroports. Ils sont en train d'être pourchassés. Par exemple, en Turquie, aujourd'hui, la Turquie qui a commencé à lancer la guerre contre Daesh, et ils sont en train de fermer la frontière. Donc, les ressources humaines sont en train de diminuer. Mm-hmm. Donc, la seule alternative, c'est d'utiliser leur propre potentiel. Mm-hmm. Ce sont les enfants qui ont prêté allégeance à Daesh, mm-hmm. parce qu'ils se trouvent dans cette situation, géographique, dans mm-hmm. ce terrain, et parce qu'ils ont été enlevés. Ils sont utilisés aussi comme boucliers humains parce que dans certains cas, Daesh ou bien les miliciens terroristes sont menacés de frappes aériennes ou bien même de combats de front sur mm-hmm. terre. Donc, on les utilise comme boucliers humains pour repousser ou bien pour avorter le projet de toute attaque contre eux. Mm-hmm. Dans certaines régions en Irak, l'armée irakienne a dû reporter plusieurs fois le lancement de plusieurs batailles pour combattre Daesh parce que Daesh utilisait les enfants et leurs parents comme boucliers humains. Mm-hmm. Je pense que c'était à Al-Anbar au début. Pour cette raison que l'opération a été reportée plusieurs fois. Donc, ils sont aussi utilisés comme des réserves de sang. Il y a beaucoup de blessés, il n'y a pas assez d'hôpitaux là-bas. Donc, on les utilise pour transfuser au profit de ces blessés. Mm-hmm. Ce sont vraiment les premières victimes et c'est vraiment quelque chose qui touche au cœur de voir que les enfants sont qui n'ont même pas de valeur ou bien de respect à la vie même des enfants.
L'innocence transformée en une bête. Vraiment en une machine bestiale parce que ce ne sont pas des humains, ce ne sont plus des humains, ce sont vraiment des machines. Et
malheureusement, les enfants ne peuvent pas être conscients parce que les enfants ne sont pas assez mûrs pour comprendre ce qui leur passe.
Exactement.
Et ils sentent que ils croient que c'est la vie. Mm-hmm. Et il y a vraiment le traumatisme qui règne dans leur rang. Il n'y a pas d'aide psychologique parce qu'ils ont été transformés en une machine mm-hmm. qui applique seulement
Une machine de guerre. Bon, ces enfants qui seront, comme on les appelle, les soldats de demain pour le groupe terroriste qui s'appelle État islamique. On sait tous que les ennemis de cet État, ce ne sont pas seulement les autres confessions. Leurs ennemis sont nombreux. C'est toute personne qui n'adhère exactement pas à leur doctrine. Donc, est-ce que l'Occident est à l'abri d'un retour vers eux, en fait, de ces combattants? Est-ce que l'Occident, vraiment, qui est aujourd'hui en train de regarder les batailles et les combats et les massacres qui se font dans nos régions, est-ce qu'il est vraiment à l'abri que ces combattants ne vont pas un séjour retourner vers eux? Et surtout qu'on parle que ces soldats sont les soldats du futur et que l'Occident devra les combattre sur plusieurs générations.
Bien sûr que l'Occident n'est pas à l'abri. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs attaques menées qui ont été revendiquées par Daesh lui-même, pas seulement par un groupe terroriste quelconque, par mm-hmm. Daesh lui-même. Mm-hmm. Parce que Daesh a changé de stratégie après s'être installé à Raqqa, en Syrie et dans quelques régions en Irak. Il a commencé à appeler, le mois de Ramadan dernier, ils ont appelé tous les volontaires et tous les musulmans qui adhèrent à la doctrine wahhabite ou bien à leur propre doctrine à attaquer les mécréants. Et là, on a assisté, on a vu dans une usine à Paris, un employé qui y a tué son chef, mm-hmm. tout simplement parce qu'il est un mécréant. Mm-hmm. Donc, vraiment, ils sont en train de légitimer toutes sortes de meurtres. Aujourd'hui, si je suis en train de marcher dans la rue, chaque personne étrange, c'est une cible potentielle à une attaque terroriste. Parce que la mentalité de ces gens, comme vous venez de présenter, toute personne qui n'adhère pas au califat islamique, à l'État islamique, c'est une cible légitime. Et ce qui est le plus dangereux, c'est qu'ils sont en train d'utiliser les versets coraniques pour justifier leurs attaques mmh. et leurs crimes. Mmh. Donc, l'Occident, certainement, n'est pas à l'abri de ces
attaques. Mais comment est-ce qu'il prévoit
Il prévoit, il a commencé à mener cette coalition internationale.
Parce que d'antan, l'Occident, lorsqu'il voulait, lorsqu'il en avait fini avec un pays ou bien un leader arabe, par exemple comme Saddam Hussein, qui a été liquidé, décapité, il procédait ainsi. Il tuait la tête, ça y est, il pouvait s'emparer du terrain, du pays, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire de même? Est-ce qu'il suffit de tuer la tête pour être sûr que le chapelet va tomber?
Sur ce point, le secrétaire général du Hezbollah l'a depuis 4 ans averti. Il a depuis 4 ans sonné l'état d'alerte sur ce point. Il a dit que vous, l'Occident, le bailleur de fonds et principal de ces groupes terroristes de Daesh, vous allez payer le prix. Ce sont des gens qui n'ont pas, qui ne tiennent pas à leurs promesses. Ce sont des gens qui vont se retourner contre vous une fois que leur force est établie sur le terrain. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont combattus en Syrie, en Irak, et ils subissent de grandes pertes. Mais malheureusement, c'est la doctrine wahhabite qui a été ancrée et enracinée, que ce soit dans leur propre esprit et que ce soit aussi en Occident. Aujourd'hui, quand les générations musulmanes, que ce soit des jeunes ou bien autres, voient que les musulmans ils sont tués par la machine de guerre américaine et ses alliés, aujourd'hui, ils sont tous provoqués et incités à commettre des attaques et des crimes, tout simplement parce que ce sont des mécréants. Et chacun de chaque personne qui soutient Daesh se présente et se porte comme un mufti en soi. Donc, ils se permettent de lancer n'importe quelle attaque à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, juste parce qu'ils sont en train de combattre la mécréance. Ils se portent comme s'ils étaient un dieu sur terre, et Dieu n'a pas demandé aux musulmans de crucifier ni de tuer juste parce que telle personne ou telle personne a commis un péché. D'ailleurs, quelle sera donc la raison du jour du jugement si nous allons jouer ce rôle?
Voilà, exactement.
Donc c'est un grand danger, et je pense que dans quelques mois ou bien dans quelques années, l'Occident vraiment va commencer à payer le prix avec une grande ampleur. Donc les attaques, une fois qu'ils sont de retour dans leur pays pour soit voir leur famille, soit pour fuir les combats, parce que l'armée syrienne et l'armée irakienne avancent sur le terrain dans ces pays, dans les pays de la région. Quand ils vont rentrer chez eux qui ont été assimilés et inculqués au maniement d'armes et à toute cette mentalité militaire, même du point de vue psychologique, ils n'arriveront pas à s'en débarrasser, tout simplement. Ça va prendre des années, et sans aide
peut-être ils ont également envie d'étendre leur califat, pourquoi pas, pour englober des territoires.
C'est ce que Daesh le dit. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, qui a été la source principale du lancement de cet esprit wahhabite, va payer en premier le prix, parce que aujourd'hui Daesh appelle à instaurer le califat islamique en Arabie Saoudite pour mettre la main sur la Mecque.
Voilà, ça nous fait vraiment penser à un film hollywoodien un robot super sophistiqué est créé pour détruire
l'humanité.
Voilà, et en fait ce robot se retourne vers nous. Je sais pas pourquoi on voit pas, je crois que c'est clair, c'est vraiment clair que c'est là la fin de ce groupe islamique, de ce groupe terroriste, pardon, qui a été créé. Voilà, c'est la fin de notre émission ce soir. Merci d'avoir été notre invitée, Nada Al-Had. Merci à vos chers spectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.